BPM, élections législatives 2024.
Bonjour à tous, bienvenue sur BPM si vous venez de nous rejoindre. Le premier tour des élections législatives aura lieu ce dimanche 30 juin et le second tour le 7 juillet. À cette occasion, BPM vous propose des émissions spéciales où nous recevons les 8 candidats sur la 5e circonscription de l'Eure. Et aujourd'hui, nous recevons Pierre-Yves Jourdain, candidat pour le nouveau Front Populaire donc de la 5e circonscription de l'Eure. Pierre-Yves Jourdain, bonjour.
Bonjour.
Alors, Pierre-Yves Jourdain, vous avez 46 ans, vous travaillez dans le milieu du cinéma. Vous avez décidé de vous présenter pour ces élections législatives et votre suppléante se nomme Amandine Liard. Durant cette émission, nous allons passer en revue votre projet pour la circonscription, vos propositions et vos priorités pour les prochaines années. Tout d'abord, on va revenir sur la décision du président de la République survenue après les résultats des élections européennes le 9 juin dernier. Qui fait qu'on est là aujourd'hui, à savoir la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous, comment est-ce que vous avez réagi face à cette annonce?
Comme beaucoup de gens, par une forme de sidération. Non pas que l'hypothèse d'une dissolution soit étonnante en soi. Il y a eu plusieurs motions de censure qui ont été déposées. Pas de majorité au Parlement et donc une dissolution planée au-dessus de cette législature depuis son premier jour d'installation. Mais dans ce contexte-là, avec une poussée de l'extrême droite comme on ne l'a jamais vu, en imposant un délai aussi court à la veille des Jeux Olympiques qu'on va accueillir et les questions de sécurité que ça peut poser, au moment aussi où on est en train de mettre en place la Commission européenne et on voit à quel point les politiques en France et en Europe sont liées à cette commission, son installation, et ce qui fait que, d'ailleurs, au passage, aujourd'hui, on a déserté les négociations, et donc les pays européens, eux, avancent, heureusement, mais la France n'y participe pas parce qu'elle est complètement enlisée dans ces élections complètement incertaines, et je trouve qu'à tout point de vue, cette dissolution dans ce timing-là est inconséquente, et même immature. On a l'impression d'un enfant qui casse son jouet de colère parce que ça ne marche pas comme il veut. Et moi, je trouve ça très inquiétant pour la vie de la démocratie, parce que c'est une campagne comme ça précipitée, avec, j'ai l'impression derrière, un calcul politique, en plus un calcul politique qui est assez maladroit, parce que je pense que le président avait en tête que la gauche ne pourrait pas s'unir, que ce serait des alliances contre nature, et or, en 24 heures, on avait un accord de principe, et au bout d'une semaine, un programme commun, et ça... Pour moi, là, pour le coup, ça, j'en suis pas étonné. Ça fait plus de 10 ans qu'en tant que militant politique, j'ai essayé d'être de tous les rassemblements de la gauche, avec des initiatives plus ou moins abouties. Mais on se parle, on a des valeurs communes. On se rappelle de la gauche plurielle en 97, qui avait permis quand même pas mal d'avancées. Je pense aux 35 heures, à la loi Voinet sur les territoires, qui marche toujours aujourd'hui. Enfin, la gauche, quand elle est unie, elle arrive à gagner et elle arrive à faire avancer les choses. Je suis étonné que Macron, qui a eu un moment sa carte au PS, mette complètement de côté cette histoire-là. Aujourd'hui, il en est le premier à pâtir, puisque cette élection, avant tout pour moi, j'ai l'impression qu'elle se dessine comme un plébiscite contre Macron, et qu'il y a deux projets diamétralement opposés qui se présentent pour changer la politique qui a été menée par Macron depuis 7 ans. Et que... On est maintenant dans une tripartition de la vie politique qui m'inquiète beaucoup pour le futur.
Justement, vous étiez déjà présenté il y a 2 ans lors de la dernière union de la gauche, la NUPES à l'époque. C'est ce que vous disiez, on a l'impression aujourd'hui que l'union de la gauche est plus forte qu'il y a 2 ans en tout cas. On en parle, on la met un peu plus en avant, on en parle un peu plus.
Oui, parce que quelque part, les conditions d'équilibre dans lesquelles se fait cette union sont meilleures. Il y a une meilleure représentation de tous les courants politiques. On n'a pas l'hégémonie d'un camp qui s'imposerait aux autres. Et donc, il y a une meilleure discussion autour de ce qu'on a vraiment en commun, avec moins l'idée d'avoir raison sur les autres, mais plutôt d'essayer d'avoir raison tous ensemble. Et puis, je pense qu'il y a aussi une conscience beaucoup plus aiguë de la gravité du moment. En 2022, ce qu'on se disait entre gens de gauche, c'est qu'on n'avait pas envie de reprendre pour 5 ans de Macron. Là, ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas envie de prendre 5 ans ou 10 ans d'extrême droite. Le péril n'est pas du tout le même. Il y a une différence de degré. Moi, je ne mets pas un signe égal entre La République En Marche, Ensemble, Renaissance, quoi qu'il s'appelle, et le Rassemblement National. C'est vraiment pas équivalent. Et autant le gouvernement a mené une politique de casse sociale et écologique assez violente, y compris physiquement face aux manifestants. Mais il faut imaginer qu'avec l'extrême droite, on va être tout à fait dans une autre dimension. Moi, je suis inquiet sur le droit à manifester, je suis inquiet sur le droit à l'expression. On voit déjà les menaces qui ont été faites sur les chaînes publiques, c'est-à-dire des députés RN qui, en toute tranquillité, sont invités, par exemple, sur France Bleu, et disent « Mais vous inquiétez pas, on vous traitera bien, on vous retrouvera du travail ». Voilà, on est déjà dans la menace. Et puis moi, je suis aussi inquiet parce que ce contexte-là libère une parole raciste, xénophobe, antisémite, islamophobe, partout, avec des agressions de militants, mais des agressions d'habitants lambda, parce que les gens, les pires éléments de l'extrême droite, ceux qui sont prêts à être violents physiquement, ne se sentent plus. Et moi, je crains beaucoup l'ambiance dans notre pays quand la police sera à la main du Rassemblement National.
Parlons du programme maintenant, du nouveau Front Populaire. Le premier sujet, celui du pouvoir d'achat. L'inflation touche de plus en plus les habitants, que ce soit du territoire, mais aussi du pays. Vous avez plusieurs propositions, plusieurs idées, en tout cas, pour combattre cette baisse du pouvoir d'achat.
Oui, alors, c'est dans les grandes lignes ce qu'on proposait déjà il y a 2 ans. Il se trouve juste que la situation a empiré. En particulier, l'inflation sur le panier de courses, qui est de quasiment 20% sur les 2 dernières années. Et donc, même s'il y a d'autres prix qui ont été plus amortis, on sent en tout cas très immédiatement que sur les produits de première nécessité, on n'y arrive plus. Et c'est pour ça que le nouveau Front Populaire propose, dès son arrivée au pouvoir, donc dans 2 semaines, si les Français nous mettent en tête à l'Assemblée nationale, un état d'urgence sociale, et avec en particulier des mesures immédiates comme un blocage des prix de première nécessité, qui est la seule solution pour permettre de s'en sortir. Tout ce qui est lié à des variations de TVA, on sait très bien comment ça se passe quand vous bougez sur la TVA, c'est la grande distribution qui augmente sa marge. Donc c'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est un blocage des prix de première nécessité sur le panier de course et sur l'énergie. Revenir sur la question de la réforme des retraites, parce qu'en fait, entre les réformes retraites et les réformes chômage, on a dépassé les 10 millions de pauvres dans ce pays, et ça, il faut arrêter ce mouvement-là. On n'a jamais eu autant de pauvres, et des riches jamais aussi riches. C'est quand même une absurdité. C'est le ruissellement à l'envers, on prend l'argent aux pauvres pour le donner aux riches. Donc ça, on va revenir là-dessus. Et puis la question aussi du SMIC, des minimaux sociaux, qu'on puisse avoir de quoi vivre décemment, donc une revalorisation du SMIC à 1 600 euros, mais aussi le minimum contributif, les retraités qui ont fait une carrière complète, de les amener à ce nouveau niveau du SMIC, et puis ramener aussi le minimum vieillesse pour les plus fragiles de nos aînés, au niveau du seuil de pauvreté, qu'il ne soit pas en dessous, parce qu'un de nos objectifs premiers, c'est de réduire drastiquement la pauvreté et d'essayer, autant que faire se peut, de l'éliminer. Dans ces mesures qu'on mettrait immédiatement en route, il faut qu'on revienne quand même sur la question de la transition écologique. On ne peut pas se permettre d'attendre. Et donc, entre autres, très immédiatement, un moratoire sur les grands projets autoroutiers qui sont inutiles et sur les méga-bassines qui ont un impact à moyen et à long terme catastrophique sur nos sols et nos territoires. Voilà, en tout cas, il y a une vraie urgence sur ces points-là. Je pourrais aussi parler du droit au logement, sur lequel on peut agir très vite, entre autres en remontant les APL de 10% dès le mois de juillet. Voilà, c'est un programme complet. C'est le plus complet des 3 qui sont proposés aujourd'hui, parce qu'en fait, ça fait longtemps que la gauche travaille à ses propositions, qu'elle travaille à un moment chacun dans son coin avec des variations sur l'intensité, mais où on a des principes qui sont communs, et c'est ce qui a permis aussi de pouvoir construire ce programme aussi rapidement, et puis aussi parce que ça fait quand même depuis la crise de 2008 que tous les économistes, et pas seulement français, je pense à Paul Krugman, Nobel d'économie, Esther Duflo qui travaille aux États-Unis mais qui est française, qui elle aussi a le prix Nobel d'économie, qui disent qu'il y a un problème de redistribution des richesses. La richesse a continué d'augmenter ces 15 dernières années et le partage de la valeur n'a pas été le bon, c'est-à-dire que toute cette richesse qui a été créée, elle allait dans la poche des actionnaires, quand la classe moyenne et la classe ouvrière n'a pas vu son revenu augmenter, voire baisser maintenant en termes de pouvoir d'achat à cause de l'inflation des prix de première nécessité. Donc là, il y a un besoin de justice fiscale, de justice sociale. Il faut savoir aujourd'hui, quelqu'un comme Bernard Arnault, qui est le Français et l'homme le plus riche du monde, lui paye 14% d'impôts. Voilà, on en est là aujourd'hui. S'il payait sa juste contribution, elle devrait être multipliée quasiment par 3. Ça fait beaucoup d'argent.
Parlons d'un autre sujet, notamment qui touche directement le territoire de la 5e circonscription, qui est très rural. Il y a une volonté de renforcer les services publics, du coup, notamment en ruralité. Donc ça touche directement notre territoire de la 5e circonscription.
Alors tout à fait. Dans un deuxième temps, une fois qu'on aura passé l'été, dès la rentrée, quand on s'installera dans le rythme parlementaire ordinaire, on va redonner des pouvoirs au Parlement, et entre autres avec une grande loi autour du retour des services publics qui ont été trop abîmés. Globalement, on observe un mouvement depuis plus de 10 ans de libéralisation des services publics, une forme de thatcherisation de notre territoire politique avec 40 ans de retard, où on enlève des moyens aux services publics, je pense en particulier à l'hôpital, en pensant qu'ils vont être mieux gérés par le privé. Et donc on voit toutes ces cliniques privées, ces maisons de santé gérées en entreprise commerciale, qui viennent petit à petit prendre le pas sur l'hôpital public et la médecine libérale telle qu'on a pu la connaître, c'est-à-dire la médecine de ville. Voilà, il y a quelque chose de très important à faire pour retrouver une offre de santé, et une offre de santé qui soit accessible de façon publique. Entre autres, moi je suis très attaché à jouer sur la régulation de l'installation des médecins. On a augmenté le numerus clausus, qui est une bonne chose, mais on n'a toujours pas de contraintes, je ne parle pas d'obligation pour autant, mais de contraintes quant à un minimum de services. Et y a une proposition d'amendement qui avait été faite au Parlement dans ce sens, qui avait été votée non seulement par toute la gauche, mais aussi par le Modem et par ce groupe centriste qu'on appelle LIOT, Liberté, Territoire, qui avait aussi déposé une motion de censure qui avait failli être adoptée. Et tous ces gens, y compris donc jusqu'au centre droit, s'étaient rendu compte qu'il fallait faire quelque chose contre les déserts médicaux, mais conjointement, Macron et le RN ont voté contre cette proposition. Voilà, là c'est des choses qu'on peut faire très immédiatement. Puis la question d'un pôle public du médicament, il n'y a pas des pharmacies partout, et donc voilà. Plus généralement, sur une partie de la circonscription, les gens se sentent abandonnés, et pour raison, parce qu'ils le sont. On a fermé les collèges, on a fermé les écoles primaires, on a fermé le bureau de poste, il n'y a plus de centre des impôts, même ici à Vernon, le centre des impôts, depuis qu'il a brûlé, on n'a pas vraiment retrouvé de service. Donc pour les PME, PMI, on est obligé d'aller à Louviers. Donc cette disparition globale des services publics, je ne parle même pas des transports en commun qui sont, à part à Vernon, un petit peu existants, et dans une moindre mesure la gare de Gisors qui souffre beaucoup, il y a un retrait des services publics. Le temps de trajet Paris-Vernon vient, dans les 5 dernières années, d'augmenter de 40%. On a quasiment 3000 personnes qui prennent le train tous les jours pour aller travailler à Paris, depuis Vernon seulement, et au-delà, sur le territoire, c'est quasiment 10 000 personnes qui chaque jour travaillent ailleurs sur le territoire. Il n'y a pas d'offre de transport en commun nécessaire. Et là, on met la charrue avant les bœufs. On parle de ZFE, d'abandon des moteurs thermiques. Mais avant toute chose, en fait, pour supprimer les usages contraints de la voiture, il va falloir développer une offre de transport en commun qui soit suffisante, conséquente. Et il faut proposer une alternative aux gens avant de leur imposer des choses qui viennent du dessus et qui ne sont pas adaptés à leur mode de vie. Donc effectivement, il faut vraiment remettre des services dans la ruralité, tous les types de services publics, évidemment l'école et l'hôpital au premier chef, mais on a aussi tout un tas d'autres services publics, et en particulier les transports, qu'il faut considérablement développer si on veut pouvoir accompagner les gens.
En un mot, pour conclure cette émission, puisqu'on s'approche déjà de la fin, si vous n'êtes pas au second tour, est-ce que vous vous donnerez des consignes de vote?
Ah, moi je suis très clair, c'est barrage à toute forme d'extrême droite, donc je ferai en sorte que Timothée Oussin ne soit pas réélu, et en tout cas en ce qui me concerne, si je ne suis pas qualifié pour le deuxième tour et si je ne suis pas en deuxième position, j'appellerai à voter contre le Rassemblement National. Il faut tout faire pour que ce programme dangereux qui avant tout ressasse la haine et la violence, et ce qui va mettre ça dans le pays, ça il faut l'éviter à tout prix, et donc je ferai le nécessaire pour ça.
Pierre-Yves Jourdain, merci d'avoir accepté notre invitation. Cette émission sera rediffusée à 13h et 18h30 et vous pourrez la retrouver en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com, rubrique podcast puis élections législatives. Demain à 8h, nous recevrons Frédéric Duché, candidat Horizon, et à 8h30, Timothée Oussin, candidat du Rassemblement National et député sortant, qui nous présenteront leur programme pour la 5e circonscription de l'Eure. Excellente journée à l'écoute des programmes de BPM.
BPM, élections législatives 2024.